Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Le célèbre motif du destin de la 5e symphonie de Beethoven, version rock progressif. Nous étions en 1969 et c'était le fameux groupe néerlandais Exception dont la chevelure abondante, les pantalons pattes d'eff et les tenues bariolées affolèrent en leur temps des millions de fans, une carrière extrêmement longue qui les mena jusqu'à la fin des années 80. Un arrangement dérangement qui fait la part belle à l'humour et à l'imagination, le piano alternant avec l'orgamonde et les citations s'enchaînant les unes aux autres, du clair de lune à la pathétique en passant par une amusante allusion au Blue Rondo à la turque de Dave Brubeck. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, aujourd'hui, Ludwig en verra vraiment de toutes les couleurs. Alors comme Beethoven est l'un des compositeurs qui a le plus inspiré le jazz, le rock et la chanson, je vous propose de ne retenir pour cette émission que les détournements de ses symphonies les plus connues. La 5e, la pastorale, la 7e et la 9e. Et nous restons pour l'instant en compagnie de la 5e symphonie, avec les extraordinaires, les savoureux, les merveilleux quatre barbus et leur célèbre version vocale de la non moins célèbre Pince à linge de messieurs Francis Blanche et Pierre Dac. Le texte n'a pas pris une ride, toujours aussi drôle, aussi loufoque, aussi malicieux. Et nous traversons d'un trait les quatre mouvements de la symphonie en compagnie de Jérémy Victor Obdebeck, fils de son père et de sa mère, neveu de son oncle et de sa tante, petit-fils de son grand-père, frère de sa sœur et frère de lait d'un marchand de beurre. Un Jérémy Victor Obdebeck qui aurait pu triompher au concours Lépine grâce à son invention révolutionnaire de la pince à linge. Grâce à toi, maintenant, nos chemisettes et nos chaussettes résistent au vent et nos caleçons dorénavant répondront présents.
La pince à linge, la pince à linge,
lapin lapin,
lapin lapin,
la pince à linge,
lapin lapin,
lapin lapin,
la pince à linge, la pince à linge,
la pince à linge,
la pince à linge,
la pince à linge,
lapin lapin, ça va. La pince à linge.
Tu t'es inventé
en 1887
par un nommé,
Jérémy Victor Obdebeck,
fils de son père
et de sa mère,
neveu de son oncle
et de sa tante,
et petit-fils de son grand-père,
frère de sa sœur et frère de lait d'un marchand de beurre.
La belle histoire.
Déjà quand il était enfant, il montrait à tous les passants son curieux esprit compétent. Il inventait des appareils pour épépiner les groseilles,
des muselières pour les fourmis. Et bien qu'il fût encore petit, c'était un mec Obdebeck.
C'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec, et de Lubeck jusqu'à la Mecque, il n'y avait
qu'un si chouette mec, Jérémy Vic, Thor Obdebeck.
Andante con moto.
Dans les champs près de chez son père, le linge blanc dans la brise légère semblait lui dire avec le vent, pince à linge, pince à linge. Il faut ton linge fin et trop léger, une pince pour le pincer,
pour le pincer,
pour le pincer,
le pincer.
Et dès lors, dans sa tête, l'obsession
le passé,
puis un jour il l'avait trouvé. Prenez de petits morceaux de bois
que vous assemblez en croix,
avec un petit bout de fil de fer
et un ressort en
vous saisissez cet instrument entre votre pouce et votre index.
Vous le serrez en appuyant
afin qu'il soit bien circonflexe. Alors vous l'approchez du linge à faire sécher et vous lâchez. Son génie a su doter les lavandières et blanchisseuses du monde entier. Une pince à linge qui protégera la liberté, l'humanité. Pince à linge, grâce à toi maintenant. Nos chemisettes, nos chaussettes résistent au vent. Et nos caleçons dorénavant répondront présents.
Et l'ouragan peut tonner.
L'orage se déchaîne. Nous, grâce à la pince à linge, on est protégé, paré, sauvegardé. On aura toujours de quoi espérer.
amis, chantons en cœur, la louange et l'honneur de notre bienfaiteur. Gloire à Jérémy Victor Optebec, Jérémy Victor Optebec, Jérémy Victor Optebec. Bec, 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 bec.
Les cadences glorieuses et répétées du final de la 5e symphonie de Beethoven, c'était l'immortel Pince à linge, dans l'interprétation de 1955 des Quatre Barbus, et une fois de plus, en les écoutant avec vous, j'étais frappé au-delà de leur humour par la justesse et la précision rythmique de ce groupe vocal légendaire. Mais quittons maintenant les contrefaçons humoristiques pour en arriver à l'une des pages pour piano les plus émouvantes qui soient, un hommage à Beethoven du grand compositeur Charles Ives, une figure singulière en qui certains voient juste avant Gershwin et Copland le véritable fondateur de l'école américaine. Une de ses œuvres les plus emblématiques est incontestablement sa monumentale Concorde Sonata pour piano, une œuvre qu'il retravaillera toute sa vie, confiant à ses proches « il se pourrait bien que je prenne plaisir à ne pas l'achever ». Le fameux pom-pom-pom-pom de la 5e symphonie hante le 3e mouvement de cette sonate, Ives considérant ce motif comme l'âme de l'humanité frappant à la porte des mystères divins. Mais celui-ci est souvent entendu comme ralenti, comme un écho lointain et déformé, ne reprenant que rarement sa vigueur d'origine. Une musique inclassable, onirique, mêlant la simplicité d'une ballade populaire à des moments d'exaltation étrangement dissonants. Nous écoutions le troisième mouvement de la Concorde Sonata de Charles Ives dans l'interprétation inspirée comme vécue de l'intérieur du génial pianiste québécois Marc-André Hamelin. Alors comme vous vous en doutez, la cinquième symphonie est de toutes les symphonies de Beethoven celle qui aura connu le plus d'hommages, ou d'outrages selon le point de vue. Et il m'est à ce sujet difficile de ne pas évoquer dans cette émission Saturday Night Fever, qui aura quand même été, avec 40 millions d'exemplaires écoulés, l'album le plus vendu dans le monde après Thriller de Michael Jackson. C'est que cet album culte contient notamment la fameuse version disco du premier mouvement de la cinquième, un titre dont le succès rendit célèbre du jour au lendemain le compositeur de musique de film Walter Murphy. Un groove particulièrement efficace qui puise dans l'énergie des quatre notes du motif du destin. Walter Murphy mettra par la suite son talent et son habileté au service, ou au détriment si vous préférez, d'autres compositeurs classiques comme Bach, Mozart ou encore Rimsky-Korsakov. Et de la cinquième, nous passons maintenant à la sixième symphonie, dite symphonie pastorale. Pour la petite histoire, rappelons que ces deux symphonies, jouées pour la première fois à Vienne lors du même concert en décembre 1808, portaient alors des numéros inversés. Sixième pour la symphonie en ut mineur, cinquième pour la symphonie pastorale. Le thème principal du premier mouvement de cette pastorale est pour nous l'occasion d'un peu de jazz, grâce à l'excellent pianiste américain Lenny Marcus, entouré du bassiste Rick Ekberg, du batteur Larry Scott et de Vladimir Espinosa aux percussions cubaines. Amoureux fou de Beethoven, Lenny Marcus a consacré deux albums entiers à le jazzifier, comme dans cette pastorale assez exotique qui nous fait imaginer Ludwig désertant provisoirement la campagne viennoise pour les plages cubaines. Thank you. un extrait de l'album The Jazz of Beethoven, signé en 2011 du Lenny Marcus Trio. Et de la 6e, nous passons à la 7e symphonie pour un véritable omni, objet musical non identifié. Car voici une version tout à fait inattendue de son second mouvement, le célèbre Allegretto. C'est que pendant que l'orchestre joue, vous y entendrez Johnny Hallyday déclamer un texte improbable et militant de l'écrivain et journaliste Philippe Labraud. Nous sommes un an après mai 68, en pleine guerre du Vietnam, et Johnny semble errer dans un paysage lunaire comme dans un film de science-fiction post-apocalyptique, déclamant crescendo sa colère et son incrédulité. Vous m'affirmez qu'il y avait de l'herbe, et des fleurs, et des arbres, et des oiseaux. Ça a vraiment existé? Vraiment?
Qui a couru sur cette plage? Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne? Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Allons, ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé? Dites-moi, allons, ne me racontez plus d'histoire. J'ai besoin de toucher et de voir pour y croire. Vraiment, c'est vrai? Le sable était blanc? Vraiment, c'est vrai? Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons? C'est vrai? Ça a vraiment existé? Ça a vraiment existé?
Mais oui, Johnny, ça a vraiment existé. Tu avais alors 27 ans et tu récitais l'étonnant poème sur la 7e symphonie de Beethoven, bien sûr, et ce texte était signé Philippe Labraud. Et maintenant, de Johnny Hallyday, nous passons à Robert Schumann. Et cet enchaînement, je ne pensais vraiment pas l'annoncer un jour dans une preuve par Z. Alors si l'on tient absolument à trouver une transition, on peut toujours dire que comme Johnny, Schumann est un romantique et que ce que nous allons entendre est aussi un essai de jeunesse. Il s'agit d'une poignée de variations pour piano sur le thème de notre Allegretto de la 7e symphonie que Schumann retravaillera et tentera de compléter à plusieurs reprises sans jamais véritablement terminer son ouvrage. Elles ont pour moi le charme et la poésie de l'inachevé, du fragment, de l'esquisse. J'en ai retenu 7 que j'ai classées suivant leur énergie et les images qu'elles m'évoquaient.
Thank you.
de Robert Schumann, nous écoutions 7 de ses variations de jeunesse sur un thème de Beethoven par le grand pianiste français Éric Lesage, dont l'intégrale Schumann fait aujourd'hui référence. Alors comme dernière musique inspirée par ce poignant allegretto, voici la proposition du Fats Jazz Band, une reprise d'un morceau écrit par Lou Singer dans les années 40. Un dialogue savoureux entre clarinette, saxophone et trompette bouchée, soutenu par une section rythmique qui change radicalement l'esprit de ce mouvement de symphonie. Alors, finalement, qui était le plus fidèle à l'esprit de Beethoven ? Johnny Hallyday ou le Fats Jazz Band ? Eh bien, selon moi, contre toute attente, plutôt Johnny, qui conserve le caractère dramatique et intense de l'allegretto de la 7e symphonie, tandis que Lou Singer fait de cet emblème beethovenien un moment d'humour et de fantaisie. Il est temps maintenant de passer à la 9e et dernière symphonie du grand Ludwig. Nous commençons avec le pianiste hongrois Peter Sarik, qui avec son trio enregistré en 2016 un disque entièrement consacré à Beethoven, 9 plages explorant façon jazz, sonate et symphonie, dont une version nerveuse et électrique du scherzo de la 9e, avec son début si caractéristique, ses zébrures entrecoupées de silence et ce rythme entêtant, tantala, 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 tantala. Alors, chers auditeurs, pour être tout à fait franc, en cherchant une version originale, inattendue, surprenante du fameux hymne à la joie de la 9e symphonie, j'ai croisé un certain nombre de chansons d'un goût relativement relatif. De Nana Mouskouri à Dave, en passant par Tomouya, Isabelle Pierre ou Richard Klederman, de quoi monter un beau festival international du kitsch. Mais nous voici sauvés par le compositeur français Stéphane Delplace. Celui-ci a en effet récemment imaginé une savoureuse fantaisie pour accordéon et quintette à cordes intitulée « L'odieuse fugue ». Cette étonnante composition s'ouvre en effet par une fugue utilisant comme thème principal un fragment de l'Ode à la joie. Puis, après avoir croisé en chemin Bach, Brahms et Schubert, nous retrouverons l'intégralité du célèbre thème, tout d'abord façon valse, puis de nouveau façon fugue, avant qu'un magnifique solo d'accordéon ne nous conduise vers la plénitude d'un choral apaisé.
Thank you.
nous écoutions l'odieuse fugue, une composition signée Stéphane Delplace, interprétée à l'accordéon par Félicien Bru et aux cordes par le quatuor Hermès et le contrebassiste Édouard Macarès. Alors la pièce que vous venez d'entendre fait partie du récent album Neuf. Neuf pour neuf compositions, toutes fondées sur des thèmes de Beethoven. Sollicité par Félicien Bru pour ce projet, figurez-vous que je suis devenu l'un de ces neuf compositeurs. Mais contrairement à Stéphane Delplace qui a choisi de mêler l'esprit de Beethoven à ceux de Bach, Schubert et Brahms, je suis resté pour ma part en compagnie du seul Beethoven avec une pièce à l'humour grinçant intitulée « Il est là ». J'espère que vous prendrez plaisir, chers auditeurs de La Preuve par Z, à reconnaître dans l'ordre d'apparition la 5e symphonie, la sonate pathétique, le 3e concerto pour piano, la lettre à Élise, le concerto pour violon et l'hymne à la joie. Mais tout commence par un tri dans l'aigu. D'entendre « Il est là », composition de votre serviteur radiophonique, une pièce écrite en 2020 et figurant sur l'album neuf de l'accordéoniste Félicien Bru. Nous terminons donc notre émission de la semaine comme nous l'avons commencé, c'est-à-dire avec les fameuses quatre notes du motif générateur du premier mouvement de la 5e symphonie de Ludwig van Beethoven, j'allais presque dire de Ludwig van Beethoven, tant cette émission lui aura mis la tête à l'envers. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Friconeau. Chef opérateur du son, Éric Boisset. À la semaine prochaine.